Il n'y a pas de test micro là, tout va bien.
Porto, ouvre les yeux, c'est l'heure.
Bah je suis là, j'ai la pêche. Bienvenue dans la matinale de Bartas.
Un max de local et un peu d'autre chose. Les bonnes ondes sont sur le 107FM.
Décollage immédiat.
Pour les matinales de Bartas. T'as tes lunettes, bordel.
Eh oui Véro, tes lunettes et moi les boutons, tout va bien. Mercredi 16 novembre, il est 8h30, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Au programme de cette matinale, que du bon. Nous recevrons en plateau Sylvie Robert, qui est directrice de l'Institut Agro à Florac. L'Institut ouvre ses portes ce vendredi à partir de 15h. On en parle avec elle dans un instant. Et puis, en deuxième partie d'émission, c'est Sandy Blanc qui nous rejoindra de l'asso Créateur en Cévenne. Sandy que vous connaissez puisqu'elle est conteuse et qu'elle a officié ici sur cette antenne sur Bartas. En tout cas, Créateur en Cévenne font leur salon Défilés et d'Hélène. C'est tout le week-end à la salle des fêtes de Florac. À la musique aujourd'hui, je me suis un peu amusé, il faut au moins ça pour avoir le moral en ces temps où le climat va super pas bien. Justement, puisqu'on parle de climat, on y va pour l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. Bon, j'essaye de savoir à peu près qui vous êtes, auditeurs et auditrices qui nous écoutez. Je vous croise pour beaucoup dans la rue, pour celles et ceux que je ne croise pas, ce n'est que partie remise. Bref, tout ça pour vous dire que je pense qu'en tout cas, nous portons les mêmes valeurs, que vous n'êtes pas sans savoir que c'est la COP27 depuis une semaine. Alors voilà, nous sommes dans le bon. Oui, chers amis, tout va se régler. Mais vraiment, hein, Greta Thunberg va bien, nous allons toutes et tous vivre dans le joli monde des bisounours. Tiens, à propos, est-ce que vous connaissez Maduro, l'homme qui règle plein de problèmes au Venezuela, mais vraiment plein de problèmes. Bon, légèrement tirant sur le bord. Évidemment, puisque le président Macron le traitait de dictateur il y a à peine un an, et ça c'était avant la crise énergétique. Eh bien, le même président Macron aujourd'hui l'appelle président Maduro. Tiens, les choses ont changé. Et ce n'est pas grâce au pétrole, non, richesse du pays, non. C'est sans doute pour les valeurs démocratiques et son engagement pour le climat que porte le président Maduro, ça c'est sûr. En tout cas, lui, il a dit que c'était un miracle. Oui, tiens, ça tient du miracle. Tiens, en fait, c'est la COP 2052. Ah zut, trop tard. Ça perd l'hypopète.
Plus savoureux, de plus jubilatoire qu'un gros mot bien juteux pour fleurir une histoire d'une couille bien placée, d'un trou de balle bien senti. Et la phrase étriquée se transmute en saillie. Si l'on choisit l'option de respecter les doses, les pites et les nichons donnent des ailes à la prose. L'art d'enrichir un trait suppose qu'on soit avare. Pour fortifier les faits, il faut le rendre. On est loin des manières usuelles de notre époque. Qui veut niquer nos mères, enculer tout en bloc. Je te nique, tu me niques, on se nique, l'insulte tourne en rond et pourtant crotte de pique. On en a du juron. Les traditions se perdent quand ne gidouille mince. Zut, y'a du choix pour t'emmerder de fichtre bigre flûte. Et pour agaillardir ces injures émoussées, je propose d'abolir votre offérant. Les on restaure pas le sang bleu, on ressort bistouquette. On déterre le morbleu et sa perd l'hypopète. Comme l'abus de radas peut flanquer des boutons. On frise le dégueulasse à trop dire poil au fion. La grossièreté bordel est joliment vulgaire, mais elle perd son label lorsqu'elle est ordinaire. Une insulte élégante peut fleurir le crottin, mais pas la boule puante. Larguée à la bourrin. Comme on espère d'un cul au moins qu'il émoustille. On attend d'un mot cru du mordant qui croustille. Les immondices en bouche poussent à vociférer. Je préfère en fine mouche l'invective affinée. Je vénère ces bons gros chibroche à gâte baloche. Ressortons ces joyaux du fond de nos sacoches. Laissons aux aboyeurs leur manière de clébard. Et ils sont la verdeur. à l'étage du grand art. Quoi de plus savoureux, de plus jubilatoire qu'un gros mot bien juteux pour fleurir une histoire.
Nous sommes ce matin avec Sylvie Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'Institut Agro ici à Florac, merci beaucoup d'être avec nous. Ce 18 novembre, à partir de 15h, l'Institut ouvre ses portes, on va en parler. Mais commençons par vous Sylvie, quel a été votre parcours pour en arriver in fine à la direction de l'Institut Agro ?
Ben, bonjour d'abord à tout le monde. Je suis à Florac depuis le mois de février 2020. Je suis arrivée juste avant le Covid.
Du coup, alors, d'accord.
Et je suis arrivée d'abord comme ingénieure formatrice au service agriculture, environnement et territoire à l'Institut Agro-Florac, qui commençait juste de s'appeler comme ça d'ailleurs, parce que d'habitude ici on le connaît plutôt sous le vocable de Supagro, voire du CEP. Hein.
Du CEP. Et voilà. Alors, c'est difficile d'avoir changé de nom comme ça.
C'est pour ça qu'on fait une porte ouverte vendredi, entre autres. Et donc du coup, on a eu une période, comme tout le monde, un peu bouleversée par le Covid, ce qui nous a amené, entre autres, avec aussi le processus de fusion de l'Institut Agro, de création de ce grand établissement qui réunit et l'école d'ingénieurs de Montpellier, celle de Rennes et celle de Dijon, et nous avec, à nous questionner sur notre organisation, à revisiter notre fonctionnement. Et c'est comme ça qu'avec l'équipe de direction, on a un peu, l'équipe de direction a reformaté son fonctionnement, et avec elle, toute l'organisation finalement des services. Et ce qui fait que je me suis retrouvée directrice dans cet établissement. C'est une belle aventure en l'occurrence, mais ce n'est pas une aventure solitaire puisqu'en fait tout le monde a été amené à revisiter un peu sa manière de travailler avec les autres sans remettre en question fondamentalement les activités. Mais par contre la manière dont on a de faire ensemble, de piloter au quotidien notre établissement. Voilà, parce qu'en fait le contexte a quand même un peu été bouleversé avec et la fusion comme je le disais et les mobilités, l'arrivée, départ lié aussi au Covid, hein, comme dans beaucoup d'établissements.
Ça représente une équipe de combien de personnes au total, Supagro ?
Alors, quand nous serons complets...
J'ai dit Supagro encore.
C'est pas grave. Non, vous voyez, je réponds en plus parce qu'on est habitués, nous aussi.
C'est parfait.
quand nous serons au complet, nous redeviendrons une équipe de 43 personnes. Là, on a encore quelques postes à pourvoir parce qu'il y a eu des mobilités. Une personne qui est partie pour de nouvelles aventures en Belgique. Une autre qui a pris une retraite bien mérité. Et puis un poste à la cuisine qui est à pourvoir aussi. Donc tout ça, ça nous fait 43 personnes au total.
Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'Institut Agro, parce qu'il y en a sans doute, quelles sont d'abord les formations ? On va commencer par ça, les deux promotions que vous avez. Commençons par ça, parce que à l'Institut Agro, ce n'est pas que ça.
Non, alors effectivement, souvent dans le territoire, on nous connaît à travers notre activité de formation initiale, puisque nous avons des étudiants, deux classes de licence professionnelle, c'est des niveaux Bac plus 3. Ce sont des étudiants, la plupart on va dire, ont la vingtaine, mais on peut accueillir des gens qui sont plus âgés en reconversion professionnelle. Et on les connaît parce qu'ils circulent dans Florac, qui sont là entre septembre et mars en général, avant de partir en stage en entreprise. Donc, on a des hébergeurs dans la commune et dans les communes alentours qui connaissent bien nos étudiants et puis les associations en général les connaissent bien aussi. Donc, ces deux licences pro, peut-être le sigle, vous ne les connaissez pas très bien.
CEDRE et GEMA, c'est ça ?
CEDRE et GENA, voilà. Gestion des espaces naturels agricoles, gestion agricole des espaces naturels ruraux, pardon, voyez même moi, il faut que je réfléchisse un peu mes sigles, et coordination de projets en éducation à l'environnement, au développement durable. Donc c'est vrai que souvent dans le langage quotidien, on dit CEDRE et GENA, et ce sont des gens ensuite qui trouvent un emploi assez rapidement. Alors une partie continue ses études, mais c'est pas la majorité. Là on a des chiffres qui sont sortis parce qu'on a Claire Ergotte qui coordonne ces deux licences pro avec l'aide de David Kimurjan et de Iris Boumb. Et tous les trois, du coup, font le suivi des anciens. Et ça s'avère, si ma mémoire est bonne, je n'ai pas pris les chiffres là ce matin avec moi, mais je crois qu'il y a 16% en gros dans les deux dernières promos des étudiants qui poursuivent leurs études. Souvent, c'est un master en fait derrière. Sinon, les autres s'intègrent dans s'insèrent en fait dans la vie active. Et on en a une part non négligeable, notamment en GENA, qui s'installe. en agriculture. Et donc, bah, c'est bien aussi. Puis une partie aussi régulière qui s'installe en Lozère. Ouais. Donc, on contribue, on aime bien dire aussi, qu'on contribue à la dynamique de population du département. Parce que bah, c'est plaisant de se dire que ce qu'on fait, les échanges qu'on a avec les acteurs du territoire donnent envie aux gens qui ne sont pas forcément de Lozère d'y rester.
Alors, précisons maintenant, comme je le disais en préambule, que l'Institut propose énormément de choses tout au long de l'année. Alors, on ne va peut-être pas pouvoir tout citer.
Ah, c'est dommage.
Voilà, mais alors, allons-y, puisque nous avons le temps. Que propose l'Institut?
Alors, là, on vient de parler des licences pro, mais avant de rentrer dans le détail des événements, je voudrais dire aussi qu'une de nos activités, et c'est bien la raison pour laquelle on fait porte ouverte vendredi après-midi, c'est d'expliquer aux habitants du territoire, nos partenaires aussi qu'on croit sur certaines de nos activités, mais pas forcément sur toutes, qu'on accueille aussi toute l'année des stages de formation continue. Et donc, ce sont des enseignants des lycées agricoles, qui sont notre principal public, ou des formateurs de CFPPA ou de CFA. Alors, c'est pareil, les sigles, hein, peut-être que ça va vous aider si je l'ai dit. Le CFPPA, c'est les centres professionnels, le centre de formation professionnelle et de promotion agricole, et les CFA, les centres de formation d'apprentis. En gros, c'est l'ensemble du dispositif de l'enseignement agricole qui est appelé, à travers les formations qu'on fait, à renouveler régulièrement ses pratiques, que ce soit pratiques pédagogiques, nous ici, on a quand même une forte connotation en sciences de l'éducation, ou que ce soit les pratiques agricoles à travers l'accompagnement des directeurs d'exploitation agricole dans les lycées, des directeurs d'ateliers technologiques dans les lycées aussi, les enseignants aussi qui font au quotidien enseigner la zootechnie, l'agronomie, la gestion des exploitations agricoles, l'ensemble même des disciplines, ça ne concerne pas que les disciplines techniques, donc pour accompagner la transition agroécologique. Et donc tout ça, quand on est enseignant ou formateur, hein, ce sont des choses qui se travaillent au quotidien parce que le monde bouge et que nous, on essaye modestement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, d'accompagner ces changements en proposant des stages de quelques jours, des fois renouvelés plusieurs fois dans l'année, hein, pour que ces profs, ces formateurs puissent avoir l'occasion d'échanger avec d'autres, de venir glaner un petit peu l'état de l'art en la matière, l'état de la science, l'état des pratiques pédagogiques, et puis repartir chez eux, gonfler, remotiver, parce que des fois, c'est dur hein, au quotidien. C'est pas tellement la question de faire classe qui est dure, c'est la question d'être tout le temps un petit peu à flot au niveau des connaissances, en même temps d'être bon au niveau pédagogique, c'est pas si évident que ça. Donc nous, on essaye d'être là en soutien. Alors on dit qu'on fait de l'appui, mais c'est vrai que c'est au sens propre. Hein. On fait de l'appui au personnel enseignant des lycées agricoles, des CFPPA, des CFA pour les aider à être bien dans leur boulot et du coup à former des futurs professionnels de l'agriculture et de l'environnement qui soient bien dans leur basket aussi et qui soient des professionnels bien au fait des enjeux. Donc, on parle beaucoup de transition agroécologique, transition climatique, énergétique. Tout ça, ça se traduit à l'école aujourd'hui par un certain nombre de changements.
On avait eu la chance de recevoir des personnes qui se formaient ici en début d'année. Et c'est vrai qu'il y a un maître mot aujourd'hui, c'est l'adaptation.
Oui.
À tout ça.
Oui, et nous, dans nos pratiques, en fait, on essaye aussi d'être un peu avec des grandes antennes pour essayer... tout en étant en relation avec le monde de la recherche, avec le monde du territoire, le quotidien. Nous, c'est pour ça aussi qu'on veut dire merci vendredi aux gens du territoire, parce que on essaie de tricoter au quotidien à la fois la relation qu'on a très concrète à travers nos projets, nos actions du quotidien, nos pratiques aussi nous-mêmes pédagogiques, parce qu'en ayant nos licences professionnelles, on est aussi enseignant formateur, et donc on a aussi cette occasion de tester un certain nombre de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de contenus pédagogiques. On travaille par exemple sur le pastoralisme, mais pas seulement, hein, sur l'éducation à l'environnement. Tout ça, ça nous donne de la matière pour essayer de proposer à nos collègues dans les lycées sans cesse des adaptations, sans cesse de les conforter dans ce qu'ils font, parce qu'il y a aussi des choses qu'il faut garder, il ne faut pas tout changer en permanence, mais des évolutions au quotidien pour être le plus dans le concret, le plus, j'allais dire, c'est peut-être pas tout à fait bien dit, mais le plus à la page, le plus adapté, le plus pertinent possible dans nos pratiques d'enseignement au quotidien pour que l'enseignement agricole réponde aux attentes. Qui sont celles et des familles, des jeunes, de notre ministère, qui nous transmet aussi régulièrement ses commandes, en tout cas ses besoins. Et donc nous, on essaye de répondre au mieux à travers finalement une espèce de, j'allais dire une soupe, parce qu'on sort de la fête de la soupe, en tout cas un ensemble qui nous enrichit, c'est-à-dire qu'on a à la fois besoin de faire, donc nous-mêmes à travers nos formations, d'être en relation avec la recherche, comme je le disais, donc nos collègues par exemple de Montpellier, mais aussi maintenant ceux de Rennes, ceux de Dijon et au-delà, hein. Et puis tous nos partenariats de terrain qui nous font ancré dans la réalité. Quand on est en train de discuter avec un agriculteur, un berger, un animateur d'association, à un moment donné, ça nous permet de savoir de quoi on parle et de pas être hors sol. Donc tout ça nous alimente et nous permet, je crois, en tout cas, on le fait avec cet enthousiasme-là et cette envie-là, de répondre aux attentes de l'enseignement agricole.
Alors, on sent la passion, en tout cas, ça c'est clair. Donc vous l'avez abordé, il y a la Maison Mère à Montpellier, il y a Rennes, il y a Dijon aussi qui s'est ouvert. Est-ce que ça permet à l'Institut Agro de Florac justement de rayonner entre guillemets au niveau national?
Alors, ça remet peut-être une couche sur ce rayonnement, parce qu'à la base, l'Institut Agro-Florac, ex-Supagro, ex-CEP, ex-tout ce qu'on veut, était déjà à dimension nationale. Donc, nous, ça, on pourrait dire qu'au quotidien, ça ne nous change pas forcément la vie, si ce n'est que ça redit bien notre mission. Ce qu'elle est, elle est bien à vocation de service public, elle est bien pour apporter un accompagnement, un appui à l'ensemble des enseignants de l'enseignement agricole. Et il se trouve qu'on est rattaché à l'Institut Agro-Montpellier qui maintenant, vous disiez maison-mère, effectivement, il y a eu cette première fusion qui s'est faite entre Florac et Montpellier. Aujourd'hui, depuis là, le 1er janvier 2022, on est à 3 grandes écoles. Mais il se trouve qu'avec, par exemple, Dijon, qui est le dernier rentré dans ce consortium, l'Institut Agro Dijon a déjà aussi, depuis longtemps, on travaille déjà avec eux, comme avec l'Institut Agro de Rennes-Angers, on travaille déjà avec les équipes d'appui, parce que là-bas aussi, il y avait des équipes qui faisaient un travail comparable aux nôtres, mais sur des aspects complémentaires. Donc on est des équipes qui finalement nous connaissons bien au quotidien sur le terrain. Après, du point de vue politique, du point de vue stratégique, il y a encore des ajustements à faire, parce que vous savez ce que c'est, dans les restructurations, on a envie de ne voir plus qu'une tête, alors que derrière, il y a une diversité d'actions, de missions, d'agents et de compétences, et que nous, tous, aussi bien à Rennes qu'à Dijon ou à Florac, on a envie que tout ça perdure, parce qu'on considère que c'est ça la richesse de l'offre qu'on peut proposer. Mais concrètement, voilà, on travaillait déjà ensemble sur le terrain, donc ça devrait venir renforcer ces complémentarités. En tout cas, c'est dans ce sens qu'on travaille aujourd'hui.
C'est ça, c'est un partage et pas une uniformisation.
Oui, en tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Je pense que c'est ce que souhaitent aussi nos dirigeants, en tout cas à l'échelle de l'Institut Agro, et également au niveau du ministère de l'Agriculture, principalement, puisque c'est avec lui qu'on échange sur ces questions d'appui à l'enseignement agricole. Donc après, bon, voilà, tout le monde partage quand même, on va dire, je crois, et je ne crois pas être naïve en disant ça, je pense que sur le fond, tout le monde partage une idée qui est à peu près commune. Après, dans la pratique, on voit bien, hein, on est à une période où au niveau de Bercy, ils sont en train de chercher un peu les sous dans les tiroirs, de temps en temps, en tout cas pas forcément... on n'est pas toujours, on va dire, sur le haut des dossiers, c'est normal, il y a plein de sujets, plein de priorités. En ce moment, on parle d'énergie, voilà, il y a tout un tas de choses qui font que l'enseignement agricole, des fois, on doit quand même se montrer pour dire oui, mais nous, ce qu'on fait, c'est aussi important que le reste. Ne nous oubliez pas, pensez pas qu'on n'est que un, alors que derrière, on est plusieurs et qu'on travaille ensemble. Donc, c'est notre travail quotidien, de se montrer, de faire bien notre travail et de le faire savoir autant que possible.
Le ministre vous a entendu, j'en suis sûr.
Oui, j'espère qu'il écoute Radio Bartas.
Alors, on va parler de ce qui va se passer concrètement vendredi, mais parlons d'abord du CDI de l'Institut, qui est une belle source d'informations de toutes sortes.
Oui, justement, alors effectivement, c'est une des premières idées qui nous a amené à se dire qu'il fallait qu'on réouvre nos portes après les 2 ans bouleversés qu'on a connus, le fait qu'on a un peu évolué, nous ne serait-ce que dans le nom, effectivement, dans notre organisation. On s'est dit, bon, là, quand même, il faut qu'on dise aux gens qui nous entourent, là, nos voisins, nos partenaires, j'avais envie de dire nos amis aussi, c'est vrai, parce qu'on a des relations quand même super cordiales aussi avec tout le monde en général. Donc du coup, voilà, on s'est dit il faut quand même qu'on leur explique ce qu'on fait, parce que oui, on voit les étudiants, oui, on voit qu'il y a du passage, il y a des allers-revenus, il y a des visites, mais au fond, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que je vous ai expliqué là, on a envie de le partager un petit peu plus. Et puis effectivement, il y a un certain nombre de ressources qui sont ouvertes aux habitants, et le CDI en est une, et parmi les plus importantes, puisque finalement, on se complète bien avec la bibliothèque de Florac et avec d'autres ressources aussi. Je sais que le parc aussi a des ressources. Tout ça, c'est au service des habitants du territoire, des associations, des entreprises, des collectivités. Donc, autant que ça se sache. Alors, je pense que les gens ne l'ont pas forcément oublié, mais ils ont perdu l'habitude de venir utiliser ces ressources qui sont à leur portée. Donc, on avait envie de leur redire, mais vous savez, c'est bon, on n'est plus confinés. Vous pouvez venir, revenir. Alors, il y a quand même eu une forme de panier livres qu'on avait mis en place là, pendant le confinement, pour que les gens continuent d'avoir quand même la possibilité d'emprunter des ouvrages. Mais bon, il y a besoin de le redire.
Et à part le CDI, comment ça se passait concrètement vendredi? Donc c'est rendez-vous à 15h.
Voilà, alors rendez-vous à 15h à l'accueil. Et puis ensuite, je ne sais pas si je dois tout vous dire, parce qu'on a prévu des petites surprises.
Ah, moi, j'adore les exclus, mais non, gardez les surprises pour vendredi, auditeurs, auditrices, allez-y.
Alors, voilà, on va inviter tous ceux qui entendent ce message sont invités à venir. Peut-être vous aurez vu des affiches, peut-être votre entreprise, votre association, votre collectivité, dans votre boîte aux lettres, vous aurez trouvé une invitation. En tout cas, l'idée, c'est qu'entre 15h et 19h, on reçoit qui veut bien venir franchir la porte. On vous fera visiter les différents niveaux, les étages et compagnie, vous expliquer à travers ça ce qu'on fait. Donc l'idée, c'est que dans les salles de cours, en fait, on va montrer un peu des éléments de notre activité, pas seulement activité de formation initiale, donc avec les licences pro, mais aussi ce qu'on fait avec les adultes qui viennent en semaine, hein, une semaine par-ci, une semaine par-là. Donc nous, toute l'année, on a un certain nombre de stages, mais les gens viennent passer quelques jours à Florac sur un thème précis. Donc là, on va pouvoir vous expliquer un peu sur quel sujet ils viennent. Que ce soit la biodiversité, que ce soit les pratiques numériques, enfin l'usage du numérique par exemple en classe, que ce soit l'audiovisuel par exemple, s'approprier un certain nombre d'outils pour pouvoir travailler avec ces outils-là avec les élèves, que ce soit sur l'accompagnement de l'agroécologie, enfin de la prise en compte des pratiques agroécologiques dans l'enseignement, enfin il y a tout un tas de sujets sur lesquels on va essayer de vous expliquer un peu ce qu'on fait à Florac et aussi quand on va dans les lycées, parce que ça nous arrive aussi régulièrement de, entre guillemets, sortir et d'aller dans toute la France accompagner à la demande des équipes de lycée. Donc, vendredi, le but, c'est qu'en visitant l'établissement, entre l'équipe de restauration, l'équipe de formateurs, la logistique, l'assistance de projet, vous ayez une idée un petit peu de ce qu'on fait. Et puis, bah, bien sûr, tout ça se terminera autour d'un pot au réfectoire.
Évidemment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année à venir?
Ouh, c'est bientôt le temps des vœux.
Et également pour les suivantes, d'ailleurs.
Alors, j'ai envie de dire d'abord de la pluie et encore de la pluie.
On est d'accord, ça c'est clair.
Comme tout le monde. Ça, c'est sûr. Et après, j'ai envie de dire que ce qu'il faut nous souhaiter... Déjà, je crois qu'il faut nous souhaiter à l'ensemble de la communauté éducative, pas seulement à Florac, mais tout l'ensemble de la communauté éducative, de s'autoriser à prendre des temps, c'est pas pour faire de la promotion, mais vraiment, je crois qu'il faut que l'ensemble de la communauté éducative s'autorise à prendre des temps de respiration pour réfléchir ensemble, pour se former, parce que derrière le terme de formation, quand on dit je pars en formation 2 jours ou 3 jours, c'est pas du luxe, vraiment. On est tous la tête dans le guidon au quotidien. Et on a besoin, on voit bien, ceux qui s'autorisent à le faire, ils ressortent. Tout à l'heure, je disais, ils sont regonflés. Ce n'est pas qu'une question de partir avec le moral. C'est une question de repartir avec de l'énergie pour transmettre. Aujourd'hui, il y a un enjeu énorme. On est dans une société où on est face à des transitions fortes. On le voit bien. Tout le monde, aujourd'hui, se pose la question de, du chauffage, certes, de l'électricité, etc. Mais il n'y a pas que l'énergie. Il y a qu'est-ce qu'on met dans notre assiette. Et du coup, derrière, ça implique quel monde on veut, en fait. Vous voyez, je passe un peu d'un truc réduit à quelque chose de beaucoup plus large. Mais au fond, la question, c'est, on est dans un monde, on a la chance que ce monde, il bouge. Moi, je trouve que c'est une opportunité superbe qu'on a de réfléchir ensemble à quel collectif on veut former. Aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas dans 50 ans, c'est pas pour nos petits-enfants, c'est là, maintenant. C'est vrai, le changement climatique et tout ce que ça implique, c'est une menace énorme. Mais c'est aussi une chance de se reposer la question de comment on veut faire société ensemble. Et donc, du coup, quelle école on veut au service de ça, au service de quelle société? Et donc, pour les enseignants, nous, on parle de ce qui nous concerne, mais ça va, chacun voit un peu à sa porte là où il est concerné. Mais nous, on travaille dans le monde de la formation, de l'enseignement. Bah, du coup, on est forcément questionné sur, alors, comment on se met au service de quelle société on veut et quelle éducation on va avec. Et donc, il faut de temps en temps sortir le nez de ses cahiers, sortir le nez de son écran, même sortir de sa classe. Il faut s'autoriser à ça, ce n'est pas un luxe. Pour venir de temps en temps avec d'autres, partager un peu ses réflexions, prendre une bouffée d'oxygène, se dire « Ah oui, et du coup, on devrait faire comme ça ». Et le « comme ça », en l'occurrence, c'est comment on coopère mieux ensemble, comment on fait plus ensemble. Dans l'enseignement agricole, ça fait déjà des décennies qu'on travaille sur la plurie. Ce qu'on appelle la plurie, c'est le fait de travailler à plusieurs enseignants avec une même classe, avec des travaux de groupe, avec la pédagogie de projet, avec le fait d'aller dehors, etc. Bon, bah, tout ça, d'abord, ça commence à sortir de l'enseignement agricole, heureusement, j'ai envie de dire. C'est pas tout à fait nouveau non plus, mais ça doit être amplifié certainement. Et puis, il faut qu'on accentue encore, parce qu'on aura d'autant plus besoin de coopération à l'avenir. Et à l'avenir, c'est demain, hein, c'est même pas, voilà, c'est pas après-demain. Mmh. Et donc, tout ça, ça nécessite de s'autoriser à se former, à travailler ensemble, à prendre un peu de recul et à faire des allers-retours entre ce que je fais dans ma classe, ce que je fais dans mon école avec mes collègues, et puis ce qui se fait autour. Ailleurs, dans le territoire, ce qui se fait dans les autres lycées, ce qui se fait dans les écoles primaires, les collèges qui se gravitent autour, qui m'envoient leurs jeunes. Et donc pour ça, eh ben, il faut s'autoriser à sortir. Donc voilà, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est que depuis les équipes de direction des établissements jusqu'aux enseignants, ils s'autorisent ces temps-là parce qu'on en aura vraiment besoin. Si on veut parler coopération aux jeunes, il faut que les adultes aussi coopèrent davantage. Mmh.
En tout cas, on vous souhaite un joli succès pour vos portes ouvertes ici à Florac. C'est à partir de 15h ce vendredi, ça se clôturera par un apéro, vous l'avez dit, vers 19h. Quant à nous, allez-y.
L'apéro, ça part de 18h, parce qu'on s'est dit 15h-18h, allez, on va quand même essayer de pas trop faire languir les gens. 15h-18h, on leur fait visiter, donc vous venez quand vous voulez, entre 15h et 18h, on vous accueille. Alors, vous aurez deux possibilités de faire, en fait, la visite. Il y a une visite guidée, il y aura deux temps de visite guidée, vers 16h et 17h, et sinon, le reste, il y a aussi visite libre, on va vous préparer un petit jeu pour pouvoir suivre avec des énigmes pour découvrir un peu l'établissement. Et ensuite, eh bien évidemment, vous êtes invité à rester jusqu'à 18h. Pour ceux qui ne pourraient pas rester jusqu'à 18h, vous inquiétez pas, on vous attend quand même. On vous offrira un petit quelque chose à boire quand même, parce qu'on aura beaucoup discuté. Vous voyez, je suis assez bavarde, donc vous inquiétez pas, on boira quelque chose, on n'attendra pas 18h à être tout sec. Et puis pour ceux qui veulent rester jusqu'à 18h, qui ne peuvent pas venir avant, eh bien, de toute façon, on se retrouve effectivement pour un verre de l'amitié. On vous expliquera à ce moment-là aussi. De toute façon, on continue ce qu'on fait avec plaisir.
C'est tout à fait clair. Quant à nous, on est ravis parce qu'on a plein de projets avec des étudiants de Supagro cette année et c'est vraiment super. Merci beaucoup Sylvie.
Eh ben, merci beaucoup à vous.
Vous êtes, je le rappelle, la directrice de l'Institut Agro, institution ô combien importante pour notre petite ville. Et oui, je vous vois, allez-y, ajoutez ce que vous voulez, l'antenne est libre.
Ah, c'est super, parce que je suis en train de me dire qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dit aux auditeurs. En l'occurrence, je m'étais notée dans les événements et les choses qu'on fait qui sont ouvertes au public. Tout à l'heure, on a parlé du CDI, on a parlé aussi des ressources informatiques, etc. Mais on a aussi des temps de mini-formation et des temps de conférences ou d'événementiels qui sont ouverts, notamment les soirs en semaine à 18h. Alors, on a longtemps appelé ça les mardis de Supagro. Ouais. Il s'avère que là, il y en a un petit peu les lundis, un petit peu les mardis, un petit peu les jeudis. Donc, il va falloir peut-être qu'on revise un peu le nom. Et puis, on ne s'appelle plus tout à fait Supagro, mais basta. En tout cas, je voulais vous donner quelques dates parce qu'il y en a qui arrivent très bientôt et ça serait pas mal aussi qu'on les propose aux gens. Donc, il y a le 22 novembre à 18h, il y a une conférence gesticulée sur les questions de prévention incendie avec Laurent Marceau qui est pompier. Le 28 novembre, là c'est un lundi, à 18h toujours, donc ça se passe en général à l'Amphi, à l'Institut Agro. Donc le 28 novembre, dans le cadre du festival alimentaire, on a la projection d'un film qui s'appelle La part des autres et que ça se passera avec nos voisins des CIVAM, voilà, qui sont aussi sur le site. Le 29 novembre, on revient au mardi, donc là le mardi de Supagro aussi, à 18h, on a un jeu sérieux avec une vétérinaire qui s'appelle Estelle Lefrançois qui propose aux gens de s'interroger sur comment faire santé ensemble à l'échelle d'un territoire, parce qu'il y a des questions qui ne se posent pas qu'au niveau individuel. Donc vous êtes invités à venir aussi à ça. Et le 1er décembre à 18h, on a une projection débat qui s'appelle Partir à l'aventure et qui va traiter des migrations et d'agriculture. Donc, vous voyez, il y a des sujets variés auxquels tous les habitants sont invités. Et au-delà de ça, donc, on a des mini-formations. Je donne quelques thèmes aussi, comme ça, ça peut donner des idées. Le 17 novembre, il y en a une sur Twitter. Et le 1er décembre, il y en a une sur Sketchnote. Autrement dit, comment prendre des notes en dessinant. Donc ça, c'est pareil. Ce sont des temps qui sont ouverts à tous, donc à nos étudiants, à nos collègues, à nos voisins, à nos habitants du territoire, à tous ceux qui, à un moment donné, sont disponibles et qui ont envie d'en savoir plus. Et puis, que vous dire d'autre, dans les événements, on a aussi les journées scientifiques régulièrement qu'on organise, ça c'est pas toutes les semaines, mais c'est des temps vraiment forts où il peut y avoir un peu style colloque, alors ça peut être en webinaire ou en présentiel en fonction du sujet, et là la prochaine c'est le 6 décembre, c'est sur le numérique dans l'agriculture. Donc vous voyez, des événements, il y en a plein, alors je vous redonnerai ça vendredi, à partir de 15h.
Et je mets toutes les dates que vous venez de dire sur notre site ainsi que le lien qui mène directement à votre site internet. Merci beaucoup.
Eh bien, merci encore.
Et à vendredi.
À vendredi, avec plaisir.
Excellente journée à vous. Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve dans un instant avec Sandy. On fait une pause musicale avec Jean-Yann. Le morceau s'appelle Monique.
Dans la ville de Bassora, aux mille palais d'or, sachant que la meilleure loi est celle du plus fort, vivait un puissant calife cruel et qui despotiquement tenait dans ses griffes le destin de l'Arabie. L'Arabie. Le monarque était perverti jusqu'au bout des talons, et tous les jours dans des orgies dignes d'un étalon. Tout comme ceux qu'on éduque chez les jésuites en carême, il préférait les eunuques aux filles de son harem. Son harem. Dans le harem de Bassora, les épouses vexées de ne jamais sentir du roi les hommages empressés, cherchèrent un subterfuge qui fasse à leur souverain les effets d'un vermifuge, vermifuge mi-raisin. Oh, quel humour alors! Et bientôt le sort désigna la belle Scheherazade qui était douée d'un don d'imagination. Et pendant mille et une nuits, elle lui fit des récits qu'il trouvait fort à son goût des contes à dormir debout. Au bout de mille et une nuits, quand l'histoire fut finie, pour prendre l'air, il sortit dans les jardins du palais. Mais voilà Tipa qu'il surprit son eunuque favori pratiquant la sodomie avec un touriste anglais. De rechef, le monarque outré fit venir le bourreau et commanda que fût coupée la tête du maraud. Mais au moment où sa nuque allait être raccourcie, humblement le bel eunuque se mit à genoux et dit: ô commandeur des croyants, maître de l'Orient, écoute ma requête, ne me fais pas couper le cou. Ce serait inutile et bête, je suis eunuque de métier, alors daigne considérer qu'un eunuque décapité, ça n'a vraiment ni queue ni tête.
Nous sommes ce matin avec Sandy Blanc, bonjour.
Bonjour.
Et l'asso créateur en Cévennes, c'est ce week-end que vous organisez la 4e édition du salon Fil et Laine ici à Florac. On va en parler, bon, 2 ans sans que ça se soit passé à cause de ce qu'on connaît, c'est long hein.
Et oui, c'est long et je pense que tout le monde est bien content de revenir parce qu'on a justement beaucoup plus d'exposants qui vont être présents sur le week-end.
On va en parler, même si on ne pourra pas tout dire, parce que franchement, vous avez un programme qui est bien blindé. Bravo à vous. D'abord, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler ce qu'est l'association Créateurs en Cévennes qui organise l'événement ?
Donc, l'association Créateurs des Cévennes est une association qui regroupe des artisans, créateurs, des producteurs locaux, donc qui, voilà, secteur cause Cévennes. Et notre action, c'est de mettre en valeur notre savoir-faire en organisant des événements, des marchés, principalement artisanaux. Donc on en a sur plusieurs saisons, hein. On commence au mois d'avril avec les métiers d'art, après on a l'été, le marché nocturne de Florac, des marchés sur les causses, et puis la fête de la châtaigne, le marché des salons de la laine et marché de Noël pour terminer. Donc à chaque fois qu'avec des producteurs et artisans qui vendent ce qu'ils font de leurs propres mains.
Alors dans l'association, vous êtes combien à peu près ?
Alors on peut dire que dans le bureau, les personnes qui vont vraiment être acteurs pour l'organisation de ces événements, on est 4. Et puis sinon, adhérents, tous ceux qui participent à nos marchés, presque tous, adhèrent pour avoir des prix intéressants pour faire les marchés suivants, pour nous soutenir aussi pour l'organisation de ces marchés. Parce que du fait qu'on organise les marchés, ça permet à chacun du territoire en fait, de travailler davantage et de mettre en valeur leur savoir-faire.
Alors, tu l'as dit, vous faites pas mal de choses à l'année, mais ce salon, particulièrement, parlons d'actu. D'où est partie l'idée de ce salon Fil et Laine ?
Eh bien, l'idée est que cette période de l'année à Florac, c'est un petit peu tristounet. Les journées sont de plus en plus courtes. Voilà, on arrive progressivement au cœur de l'hiver. On n'est pas trop loin non plus des fêtes de Noël. et tous les artisans ont besoin de travailler davantage. Donc moi personnellement qui travaille le tissage, ben, j'ai eu envie d'organiser sur mon territoire un marché en intérieur sur 2 jours pour permettre aussi au public d'avoir la possibilité de venir le samedi ou le dimanche et de, voilà, de mettre en avant ses savoir-faire autour des fils et de la laine. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas uniquement de la laine et des tricoteuses, des feutriers et des tisserands, mais il y a aussi des couturières qui sont là et qui font différentes choses et qui vont aussi proposer des ateliers.
Quel programme cette année, c'est super. Alors, on va pas pouvoir tout citer, comme je te disais tout à l'heure. Rappelons d'ailleurs, si je ne l'ai pas dit, auditeurs, auditrices, que c'est à la salle des fêtes de Florac. Hein. Vous serez à l'abri, pas d'inquiétude. Peut-être des choses que tu aurais envie de mettre en avant sur quelques ateliers
Alors,
même si j'imagine que ça doit être dur de faire des choix. Là.
Voilà, il y a des ateliers autant pour les petits, les enfants, que pour les adultes, à des prix variables. Vous pouvez apprendre à filer, à tisser, mais aussi faire des teintures végétales. On a aussi une méthode de feutre particulière ou une méthode de teinture avec l'art japonais, le shibori aussi sur tissu. Donc plusieurs techniques, plusieurs pratiques qui peuvent être accessibles à tous. Alors il y a des ateliers plus spécifiques pour les adultes et d'autres pour les enfants. Sur réservation, mais pas uniquement. Vous avez le programme sur le site de l'Office du Tourisme, mais vous pouvez aussi venir le matin à 10h et vous inscrire pour les ateliers du week-end.
Auditeurs, auditrices, ne vous inquiétez pas, je mets le lien sur lequel il y a toute la programmation parce qu'elle est très dense. Et les ateliers vont de 3 à 10 euros, je vois. Hein. C'est à peu près ça. Hein. Inscrivez-vous sur créateurs-d7@gmail.com. Pareil au niveau des exposants. J'étais venu, moi, à la dernière édition, là, il y a 3 ans maintenant. Il y en avait déjà pas mal. C'est à peu près la même densité ou est-ce qu'il y en a encore plus cette année?
Alors, il y en a encore plus cette année. Hein, comme je disais, l'engouement après 2 années d'arrêt du salon. Donc cette année, il y aura 30 exposants. Beaucoup sont de la Lozère, du territoire vraiment autour de Florac. Et puis on en a aussi quelques-uns qui sont du Gard et de l'Aveyron principalement cette année. Donc il y a des exposants qui sont là depuis le début de la création de ce salon et puis d'autres qui vont faire une première cette année.
Et quelle première? Alors, est-ce que c'est nouveau ou pas? Parce que je ne m'en souviens pas, mais il y aura une yourte cette année.
Oui, alors chaque année, en fait, on a...
Il y a la yourte, il y avait
oui,
déjà
la yourte. Oui, il y a une yourte qui est installée sur une partie de la salle des fêtes, là, sur la scène. Et c'est dans cet espace-là où a lieu le défilé pour montrer un peu les créations de chaque exposant, chaque artisan. Et puis, c'est là aussi qu'a lieu, à deux moments du week-end, un moment compté. Des conteurs du territoire qui viennent raconter des histoires en lien avec la laine, les brebis...
On te retrouvera, je suppose.
Oui.
Et Sophie Lemonnier aussi.
Qui sera là le samedi, exactement.
Et qui proposera aussi des ateliers, d'après ce que je vois sur le programme. Et le défilé des créations des artisans, si je ne me trompe pas, ce sera le dimanche à 15h. Et le samedi à
16h30.
Parfait, oui, c'est tout à fait là. Vous organisez aussi, disons-le, il y aura des repas pendant les 2 jours, c'est ça hein?
Oui, comme la salle des fêtes est quand même assez excentrée, puis qu'on est fin novembre. Donc pour vous restaurer, il n'y a pas de souci. Toute la journée, vous pourrez passer 2 jours entiers à la salle des fêtes avec nous. Il y a de quoi manger, donc on a des repas qui sont préparés par le CFA de Florac, avec en dessert des glaces au lait de brebis locales aussi, qui viennent du côté de Sainte-Croix, vallée française. Et le soir et l'après-midi, crêpes, galettes, plein de choses pour bien se nourrir. Pour boire aussi, on aura une buvette. Pour rester effectivement le samedi soir, il faut bien venir et rester si vous y êtes avant pour le fameux bal, pour bien se réchauffer à cette période de l'année. Avec cette année, le groupe Patin Couffin qui viennent de l'Hérault. Et donc l'entrée du bal est à 6 euros à partir de 12 ans.
De 12 ans, ça marche. Hein. J'ai cru que tu allais dire une heure, mais à partir de 12 ans, ça marche.
Et à partir de 8 heures, 20h.
Et à partir de 20h. Et pour les repas, ça, les prix sont tout à fait démocratiques pour du local, puisque c'est 10 euros le plat. C'est quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans l'organisation de cet événement? Si tant est que ça a été compliqué.
En fait, il n'y a rien de compliqué, sauf qu'il y a beaucoup de choses à penser.
Donc au niveau de la coordination et de contacter tous les exposants, leur dire...
Ça se fait dès le mois de juillet. Hein. Ah, c'est, oui. On l'annonce à l'avance. Les anciens exposants commencent déjà à solliciter assez tôt dans l'année pour savoir s'il aura lieu, les dates, pour s'organiser dans leur planning de marché. Donc dès le mois de juillet, j'envoie les bulletins d'inscription et je donne une date butoir début octobre. Un mois avant, mais depuis mi-septembre, j'ai déjà tous les inscrits qui ont été validés.
Ouais, parce que là, si je suis créateur, alors pas du tout, ceci est une image, hein, si je suis créateur, là, il est trop tard pour que je puisse m'inscrire, rendez-vous l'année prochaine.
Oui, surtout cette année où il y a vraiment beaucoup de monde, on ne sait pas si on va pouvoir faire rentrer tout le monde, mais on va y arriver.
C'est sûr. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous aident dans tout ça, la mairie ou autre?
Oui, on a des subventions de la mairie et de la communauté de communes Causse-Gorge-Cévennes qui nous soutiennent sur nos projets toute l'année.
Est-ce qu'en dehors des événements que vous organisez comme ça à l'année, que vous faites pas mal, tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un dont vous rêvez? Un truc qui serait vraiment hors du commun et qui transporterait un peu les Floracois et Floracoises?
Qu'on n'a pas encore fait?
Ouais.
Pour l'instant, non. Après, oui, on a des choses qu'on imagine qu'on pourra peut-être faire, mais on est aussi plusieurs à décider. déjà là, c'était un grand rêve pour moi, il y a 7-8 ans en arrière, d'organiser un salon autour de la laine sur Florac. Et donc là, c'est la quatrième année. Il y a des écoles aussi qui vont participer. Donc chaque année, il y a des écoles. Là, cette année, c'est l'école de Méruès. Public et de les maternelles de Florac qui ont préparé des choses pour décorer la salle. Donc sur Méruès, c'est plutôt de l'écriture avec le cycle 3 et en lien avec le thème, donc de la laine et du fil. Mmh. Et puis sur les maternelles, des décorations qu'on va installer vendredi dans la salle.
Et c'est toi qui approches ces écoles ou c'est les écoles qui viennent à toi?
C'est moi qui suis allée contacter les écoles. Et on a aussi une exposition qu'on accueille de l'atelier de l'Europe, du sud de la France, sur l'agropastoralisme, sur le... Je ne sais pas exactement.
Oh, tout va bien.
Non, parce qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai géré, je délègue un peu quand même. Et l'expo qu'on a cette année, alors je ne sais pas si c'est sur les différentes variétés de brebis ou sur vraiment le travail de l'agropastoralisme, la mise en valeur de la laine. Je ne sais pas exactement celle qu'on reçoit cette année.
C'est un bon teaser, en tout cas, auditeur, auditrice, allez-y. Comme ça, voilà. Vous saurez.
On a aussi une association qui est un peu qui dénote un peu quoi particulière de tout le monde qui était déjà là à la dernière édition, c'est la Fibre Textile qui est une association en fait qui soutient des projets dans le monde entier. Donc Pédalons pour la paix et qui travaille. Donc dans cette association, il y a que des personnes qui travaillent la laine et ils soutiennent des projets partout pour valoriser des savoir-faire ou valoriser aussi la laine locale. Ça peut être avec le poil de chameau, le yak, pour mettre en chemin en fait de commercialisation de leur laine. Ou du savoir-faire local. Donc cette association, elle vient, ils font un atelier initiation au filage et tous les sous de l'atelier reviennent pour l'association et on les soutient parler de leur projet.
Ouais, ça a l'air vraiment génial comme asso.
Ouais.
Ça donne envie de les recevoir à ce micro. Est-ce qu'on aurait oublié des choses pour ce week-end?
Il y aura des surprises aussi, hein. Je ne peux pas tout dire. Et cette année, on accueille Séverine aussi qui va nous faire des super animations tout le week-end pour tout le monde. Et j'en dis pas plus, il faut venir.
Venez, ça se passe à la salle des fêtes de Florac ce week-end. C'est samedi et dimanche. L'entrée est évidemment gratuite. Venez soutenir les créateurs les créateurs Sévenol, les créateurs du coin, ça fait toujours du bien. Évidemment, la programmation qui est très dense, je la mets dans un instant, le lien, je le mets dans notre site. Merci Sandy.
À samedi.
Et dimanche, bon salon à toi et à toute l'équipe de l'asso Créateurs en Cévenne. À bientôt.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve lundi, si tout va bien. J'espère que tout ira bien. On se quitte et je m'en excuse, mais j'adore cette chanson. Ça s'appelle Pitéric, la cicrale et la fourmi. Satire de notre société, humour pour rire. À lundi, ciao.
miam, miam. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est une vieille embêteuse. Plutôt crevée que donner un gramme. Gramme, 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 gramme. La fourmi veut pas donner son miam, miam. La fourmi veut pas donner son miam, miam.
Ses parents avaient du pèse, des troupeaux de puces en Corrèze. Une chaîne de fourmilières, du blé, des diam. À manger, c'est un drame.
Dram, 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 la fourmi veut pas donner son miam, miam.
Hey, qu'est-ce que c'est gris? Mamou, mamou, c'est les bronzes de Krishna. Ne connais-vous les va pieds nus?
Et ne viens échanger les miams de l'esprit contre les miams du frigérateur.
Allez, ne faire foutre, ne saltimbranque.
Ah, oh, mais c'est nétique. J'en ai ras les antennes, je vais déglinguer la fontaine, ce macho qui n'aime pas les six crânes.